Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien.
Juan Lauvergeon, un mot du Japon. Est-ce que vous diriez que c'est aussi une catastrophe nucléaire à laquelle on assiste ?
Non, pas une catastrophe, puisque aujourd'hui, je l'espère, ça c'est la version positive, je crois qu'on va éviter la catastrophe nucléaire. Je pense qu'aujourd'hui, la vraie lutte, c'est le changement climatique. C'est pas véritablement la lutte antinucléaire, c'est un peu rétro.
Vous nous dites, n'ayez pas peur ?
Attendez, bah bien sûr que non, n'ayez pas peur, mais il n'y a aucune raison d'avoir peur.
Non, non, écoutez, soyons clairs, l'alerte n'était due, quoi que peuvent en dire certains, qu'à une panne de la hotte d'aspiration des cuisines de la cantine. Alors vous voyez qu'on est loin de la fissure dans le réacteur et autres apocalypses.
Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien.
Le porte-parole du gouvernement japonais, Yukio Edano, a reconnu que la radioactivité autour de la centrale était dangereuse pour la centrée. La préfecture aurait mesuré un niveau 9 fois supérieur à la normale.
Jusqu'ici, tout va bien.
19h passé de 1 minute à la pendule de la plus rebelle des radios. Il est l'heure du Canu Info, comme presque tous les jours de la semaine, 19h-20h. L'équipe du jeudi, c'est bien sûr Delphine.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous et toutes.
Et c'est toi qui ouvre le Canu Info, je te rappelle.
Ah bon, c'est moi qui fais une petite introduction. Alors d'abord, je voudrais être solidaire avec tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui travaillent, qui ont peut-être aussi déjà travaillé mardi, c'est-à-dire pour tous ceux et toutes celles qui, d'une manière générale, se tapent les jours fériés pour travailler, soit parce que vous êtes dans ce qu'on appelle les métiers qui nécessitent une présence, un suivi dans le travail, une nécessité. Ça va être par exemple la santé, ça on y pense tous et toutes, on se dit tous que heureusement que les pompiers, les infirmières ne font pas le pont, hein, pour être là à nos côtés quand on est malade. Mais moi j'aimerais aussi penser à toutes et tous celles qui sont là surtout pour nos loisirs, quand on va au resto, au bistrot, quand on va au spectacle, j'allais dire à la patinoire, je sais pas si vous allez à la patinoire, je sais même pas si c'est ouvert à cette période de l'année, mais à la piscine, vous voyez, c'est-à-dire que vous allez au sport, vous allez de partout dans des moments de loisirs, un jour férié, amenant des gens à travailler. Et je vous rappelle que selon les conventions collectives, la personne qui travaille un jour férié n'est pas mieux payée. Et non, c'est comme travailler un dimanche, on n'est toujours pas mieux payé parce qu'il y a des emplois, des secteurs d'activité sur notre belle France, notre belle République, qui ne rétribuent pas correctement les gens qui travaillent ces jours fériés, en particulier pour nos loisirs. C'est-à-dire qu'on devrait justement mieux payer, je le dis souvent, je le raconte souvent cette histoire, mais là aujourd'hui ça me paraît important, on devrait mieux payer les gens qui sont là pour nous amuser finalement. Et bien c'est pas ce qu'on fait dans nos sociétés, on permet à des conventions collectives d'aménager le temps de travail au mieux pour le patronat, au moins bien évidemment pour les salariés, afin de ne pas trop coûter à l'entreprise, puisqu'il y a une continuité de service les jours fériés pour continuer à nous amuser, mais en même temps on ne paye personne correctement. Donc c'est jamais bien sympa, c'est-à-dire que là il y a des gens qui ne font pas le pont, qui n'en feront aucun, hein, qui n'ont pas fait ce mardi, qui n'ont pas fait ce jeudi, qui vont continuer à travailler, puis ça se trouve qu'ils seront encore là samedi, dimanche, encore à travailler. Alors oui, ils ne dépasseront pas les 6 jours d'activité en continu, mais ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les jours fériés. Eh bien on va penser à tous ces salariés, toutes ces salariés qui bossent aujourd'hui, on vous embrasse très très fort. Et puis ben, sinon j'aimerais juste commencer aussi par la diplomatie. Vous savez, la diplomatie en ce moment, à travers l'univers, la planète Terre, c'est extrêmement important. Il y a des périodes comme ça où il y a toujours un peu de diplomatie, mais finalement c'est une diplomatie économique souvent. De temps en temps, vous voyez là, c'était un petit peu calmé. Et puis il y a cette diplomatie là entre Iran et Israël, et puis évidemment entre la Corée du Nord et le reste du monde. On peut le présenter comme ça. Et donc, je vous ai raconté la semaine dernière que grâce à la diplomatie, les trois Américains des États-Unis d'Amérique seraient certainement libérés, hein, dans les jours qui viennent. Et ben c'est fait, puisqu'ils ont été libérés par Monsieur Kim, donc en Corée du Nord, et accueillis par Monsieur Trump. Alors moi, je me suis demandé ce que ça faisait d'être libéré de la Corée du Nord pour arriver et serrer la paluche, ou se faire serrer la paluche plutôt, par Monsieur Trump et ça clique, ça doit pas être simple quand même de passer de l'un à l'autre. Alors ça s'est fait en pleine nuit, il y a eu des tractations assez rapides, parce que la diplomatie elle est importante. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle que messieurs Kim et Trump sont censés se rencontrer et on a appris la bien bonne date aujourd'hui. Et oui, mes braves amis, cette belle célébration de la diplomatie va se faire le 12 juin 2018 entre messieurs Kim et Trump, et où ça, à Singapour. Il y a une tentative de neutralité, hein. On va accueillir, alors je sais pas comment à Singapour, diplomatie il y a eu pour que Singapour accepte cette rencontre absolument incroyable entre messieurs Kim et Trump, qui, rappelons-le, il y a encore pas très longtemps, s'insultaient de tout. Hein, des noms d'oiseaux à des trucs un peu plus sérieux, parce que dans la diplomatie, aujourd'hui, on va organiser une rencontre, mais il y a quand même eu des insultes qui ont fusé un petit peu, sans jeu de mots pour ceux et celles qui se souviennent de l'affaire, de part et d'autre. Ça s'était beaucoup invectivé. Alors, monsieur Trump, lui, utilise beaucoup Twitter. Monsieur Kim a ses propres réseaux de propagande, comme quoi monsieur Kim est plus fort que monsieur Trump, puisque monsieur Trump est obligé d'utiliser une plateforme privée, hein, ça lui appartient pas encore, Twitter à monsieur Trump. Monsieur Kim, lui, a ses propres médias, ce qui est quand même vachement plus efficace et vachement plus pratique pour faire passer son petit message. Mais la diplomatie en temps de guerre, vous voyez, ça a quelques effets. C'est qu'on va se faire rencontrer deux personnages qui, a priori, n'ont rien à se dire, mais alors vraiment rien à se dire, deux boulets de la diplomatie mondiale qui vont donc se faire face à Singapour le 12 juin prochain. Alors, on aurait imaginé autre chose que ce face-à-face, rien que pour rigoler. On aurait pu y rajouter M. Poutine, vous voyez, d'un côté, M. Netanyahou, par exemple, de l'autre côté. Puis vous pouvez y aller encore à ajouter comme ça un petit peu, parce que 2018, on n'est qu'au mois de mai, donc ça fait que 5 mois. On est en plus au début du mois de mai, et donc à celui qui a la plus grosse de bombe ou à celui qui a la plus grosse de gueule, eh ben, le concours est ouvert jusqu'à la fin de l'année 2018, et on verra dans le cadre de ces diplomaties qui sait qu'il va bien pouvoir gagner. Et on remarque quand même qu'il y a beaucoup d'hommes, hein, qui sont prêts pour ces concours de la plus grosse bombe et de la plus grande gueule.
Oui, alors c'est peut-être pas que lié à la masculinité, mais c'est lié au pouvoir, hein, puisqu'on rappelle que quand Thatcher est à la tête de l'Angleterre, elle était aussi masculiniste.
Oui, mais je n'ai jamais dit le contraire, j'ai juste dit que là, on peut juste encore s'apercevoir qu'il y a quand même beaucoup d'hommes.
Tout à fait.
Donc on peut peut-être mélanger, ouvrir aux femmes aussi la bêtise et la diplomatie.
Ou pas, ou faire l'inverse, enlever la bêtise aux hommes.
Ouais, mais alors là, j'ai mon petit moment de désespoir, je crois pas que tout de suite l'humanité va changer.
Alors, première info de ma part, on va parler un petit peu de l'Italie, puisqu'il y a eu une semaine à rebondissement. Alors, ça a commencé lundi, après un nouvel échec des consultations pour former un gouvernement. Le président italien a proposé la formation d'un gouvernement neutre. Donc, je vous rappelle, en Italie, il y a eu des élections, pas de vainqueur, suffisant pour avoir une majorité. Et le président, qui ne sert pas à grand-chose, doit quand même choisir un gouvernement. Donc là, il était coincé, donc comme il n'y a eu aucune majorité aux élections du 4 mars, il a fallu qu'il intervienne, là, parce qu'il commençait à en avoir un petit peu marre, je pense, d'avoir plus de gouvernement. Enfin, il y en a un provisoire. Donc le mouvement 5 étoiles, mouvement que certains classent à gauche, mais qui est plus proche des idées de l'extrême droite, qu'on est en train de le voir d'ailleurs, qui est devenue la première force parlementaire, mais n'a pas eu la majorité. Face à lui, il y a la Ligue, mouvement d'extrême droite. Lui, c'est carrément, au moins, ils font pas semblant, ils sont pas hypocrites. Mais la Ligue est alliée au parti de Berlusconi, et on va voir que c'est un rôle important. Malheureusement, ils ont obtenu un peu plus de sièges, mais ils n'ont pas non plus la majorité. Donc voilà, troisième consultation, Sergio Mattarella, donc le chef de l'État, le président italien, a jugé lundi qu'il fallait arrêter tout ça, il n'y a pas de coalition possible. On monte un gouvernement neutre, donc de technocrates. Alors qu'officiellement il a dit, hein, j'appelle les partis politiques à soutenir ce gouvernement intermédiaire, s'ils ne le font pas, il supervisera, donc le président supervisera les élections. Ce sera la première fois dans l'histoire de la République italienne qu'une législature se termine avant même d'avoir commencé, parce que chaque fois il y a quand même eu, au bout d'un moment, des compromis trouvés entre les différentes forces en jeu. Donc voilà. Alors, suite à ça, les deux leaders, donc le parti populiste 5 étoiles et la Ligue, ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec la proposition du président de former un gouvernement neutre en attendant quoi ? Une nouvelle élection, hein. Et donc pour l'instant ils sont opposés. Donc on rappelle quand même que ils sont presque prêts à s'allier. Enfin, ils avaient décidé peut-être de discuter ensemble, mais le mouvement 5 étoiles veut que Forza Italia, le mouvement de Berlusconi, qui est allié avec l'extrême droite de la Ligue, ne fasse pas partie de la coalition, parce qu'ils estiment que c'est un parti corrompu et qui représente l'ancien système. Eux représenteraient, soi-disant, le nouveau système. Si c'est ça le nouveau système, le populisme, c'est pas gagné non plus. Hein. Le populisme, ça fait un peu passer quand même. Ils n'ont pas compris ça, le mouvement 5 étoiles. Mais bon, bref. Donc on en est là. Juste après l'annonce du président de la République italien, lundi, ils se sont rencontrés, donc les deux leaders, en fait, des mouvements. Pas forcément les chefs. Hein. Donc Matteo Salvini, qui est le chef et le leader de la Ligue, et Luigi Di Maio, qui est celui qui a été élu au nom du mouvement 5 étoiles. Hein. C'est pas le chef de 5 étoiles, hein. C'est pas Pepe Grillo. Ils se sont rencontrés lundi. Ils ont discuté et rien n'est sorti en fait, donc on a l'impression que bon, c'était statu quo et puis ils étaient obligés d'accepter. Alors il faut savoir que si le président propose ce gouvernement neutre, eux comme ils sont quand même majoritaires, ils peuvent dire non, ils peuvent voter non. Hein. La situation peut être complètement bloquée en Italie, avec un système automatique hein, de gestion qui existe quand même, le pays ne s'arrête pas non plus de fonctionner. Enfin les Belges ont montré qu'on pouvait vivre très longtemps sans gouvernement finalement. Mais aujourd'hui, tac, rebondissement. Alors, le rebondissement d'aujourd'hui, en fait, il est lié à l'annonce hier soir de Silvio Berlusconi, qui jusqu'à maintenant bloque, il voulait rester avec la Ligue, anciennement la Ligue du Nord. Là, il a dit hier soir que si la Ligue trouvait un accord avec le mouvement 5 étoiles, dont il ne se ferait pas partie, il l'accepterait. Du coup, aujourd'hui, rencontre et annonce, rencontre donc des deux mouvements, le 5 étoiles et la Ligue, et annonce, comme quoi ils seraient alors je vais citer les vrais termes, dans le communiqué officiel, ils auraient franchi des étapes significatives en vue de former un gouvernement. Donc, les deux formations sont en train de préparer. Alors, il va falloir qu'ils s'entendent non seulement sur le programme, mais sur qui, à quel rôle, etc. Donc ça avance, et du coup, grâce au rebondissement de M. Berlusconi hier soir, les choses progressent en Italie. Alors il y a quand même des divergences qui sont hors Berlusconi, hein, qui était la divergence sur laquelle le mouvement 5 étoiles ne voulait pas revenir. Il y a quand même, ils n'ont pas tout à fait les mêmes idées. Alors ils détestent tous les deux l'Europe, même si le mouvement 5 étoiles il a un comportement plus ambigu sur l'Europe. Mais bon, la Ligue qui a eu beaucoup quand même de votes au Nord est un parti raciste. Il a beaucoup parlé des baisses d'impôts en dehors de la xénophobie du rejet de l'Europe. Le mouvement 5 étoiles, lui, il s'est positionné un peu différemment. Alors sur l'Europe, on ne sait pas bien. Sur la xénophobie, pour le coup, ils sont assez proches, hein, puisqu'ils veulent limiter l'immigration. Donc ils sont assez proches. Donc eux, ils s'estiment pas racistes, mais plutôt xénophobes. Et puis par contre, ils sont quand même gagné a priori pas mal sur le revenu de citoyenneté, là, un revenu universel. Donc là, par contre, on voit pas bien le compromis possible avec la Ligue. Bon, bref, il va y avoir un compromis de populiste avec une politique qui sera sûrement plus proche de l'extrême droite, bien évidemment, que d'une politique progressiste, puisque ce sont pas vraiment des partis progressistes. La Ligue, en est sûr. Le mouvement 5 étoiles, on pouvait avoir des doutes. Enfin, un mouvement soi-disant progressiste qui s'allie avec l'extrême droite, finalement, on sait très bien que c'est pas un mouvement progressiste. Hein. On s'allie pas avec les fachos. C'est pas un truc anodin. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Alors, c'est en cours de négociation. Il y a un progrès si on se place du point de vue de ces deux formations. Sinon, bon, ben voilà, il y aurait des élections peut-être en juillet ou un peu plus tard, si jamais ils n'arrivaient pas à trouver un compromis.
Alors, on va continuer avec des élections. On va repartir en Arménie. Pour clore ce chapitre, alors l'Arménie va continuer bien évidemment son histoire électorale, son histoire gouvernemental, mais on arrive déjà à la fin de quelque chose et le début d'autre chose. On peut donc aujourd'hui vous dire que mardi, Monsieur Pachinian, qui n'avait pas réussi à se faire élire comme Premier ministre le 1er mai dernier, ce mardi 8 mai a réussi. Il a donc été élu Premier ministre. Bon, il n'y avait plus que lui, hein, candidat. Il faut dire que bon, le Parti républicain avait finalement accepté de le soutenir un petit peu à moitié, pas tout à fait, mais quand même il fallait y aller. Alors, c'est quand même le Parti républicain, le parti fort de l'Arménie, ça va le rester. Il a été élu, monsieur Pachinian, pour pouvoir donner une suite au blocage, là qu'il y avait un blocage, donc il fallait s'en sortir. C'est un peu ce qui explique le Parti républicain pour avoir donné quelques voix à monsieur Pachinian, c'est-à-dire il fallait finalement assurer la stabilité dans le pays, c'est ce que déclare le chef du groupe parlementaire du Parti républicain. Juste avant le vote, la stabilité. Donc, M. Pachinian arrive, il est Premier ministre, et a priori, les gens étaient plutôt contents en Arménie, dans la rue. Il faut dire que ça faisait déjà depuis quelques semaines que les revendications et la colère commençaient à se mettre en place en Arménie contre les politiques en place, c'est-à-dire contre la corruption, contre ce côté très familial sur la gestion du pays, contre le fait que encore pire qu'ailleurs, quelques personnes dirigent le pays, ont le pouvoir sur l'économie et ont l'argent. Tout ça faisait beaucoup. Donc maintenant, Monsieur Pachinian, qui a rassemblé les Arméniens et les Arméniennes sur cette idée qu'on va lutter tous ensemble contre la corruption, et ben maintenant, il va falloir qu'il mette tout ça en ordre de marche, qu'il y aille, qu'il arrête donc les pots de vin, les élections truquées, la corruption, et qu'il arrive à installer une vraie démocratie en Arménie, où les élections seront organisées dans de bonnes conditions pour le système démocratique de l'Arménie, et que l'économie se relance. Parce que je rappelle qu'il y a un très fort chômage en Arménie. Alors, le problème de M. Pachinian, on en discutait la semaine dernière, c'est que il n'a pas vraiment de programme, encore moins de programme économique. On sent que c'est un libéral de gauche, il a des idées un petit peu sociales, et puis il y a cette idée, comme je vous le disais juste à l'instant, de lutter contre la corruption. Mais le problème là qu'il a, c'est qu'il va falloir qu'il constitue son équipe au gouvernement. Et ça, c'est pas gagné, parce qu'il a peut-être bien dû chiffonner un petit peu comme ça son cerveau, se disant « Ouh là là, il va peut-être bien falloir que je trouve des gens, qui est-ce qu'on va mettre ?» Mais finalement, tout ça, il faut bien se rendre compte que cette fameuse révolution de velours est allée très très vite, et que là, il faut qu'il s'équipe, en tout cas qu'il s'entoure d'une bonne équipe pour arriver à faire fonctionner ce gouvernement, parce qu'il faut bien se dire que le Parti républicain va continuer à... Parti républicain, conservateur, vieille Arménie, comme on dirait, vieille France ici, va pas lâcher l'affaire comme ça, et va donc empêcher Monsieur Pachinian de gouverner comme il le souhaiterait, avec de belles réformes. Ça, c'est clair qu'on peut compter sur le Parti républicain pour vraiment embêter Monsieur Pachinian. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quel a été le premier déplacement de Monsieur Pachinian, Nicole Pachinian. Est-ce que vous le savez, vous là qui m'écoutez, il est allé où? Dans une région très compliquée, il est allé au Karabakh. C'est quand même assez particulier pour un Premier ministre fraîchement élu d'aller dans ce territoire qui n'est reconnu par personne comme appartenant à l'Arménie.
Sauf par l'Arménie
et les Arméniens et les Arméniennes, mais qui est toujours perçu comme étant un bout de l'Azerbaïdjan, mais qui est occupé que par des Arméniens et des Arméniennes. Donc il est allé là-bas, dans ce territoire, qu'il faut atteindre par une longue route avec du rien et du néant au milieu. C'est pas comme si vous traversiez des villes avant d'arriver au Karabakh, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Il y a une douane, un visa, il faut payer, présenter son passeport. Donc voilà, c'est quand même une démarche assez particulière. Bon, elle est quand même allée il a quand même salué la foule, bien évidemment, du côté de Erevan et de la capitale. Mais voilà, c'était un premier déplacement, ce qui veut dire que est-ce que lui aussi est comme Monsieur Moon en Corée du Sud, c'est-à-dire que lutter contre la paix, mettre en place la démocratie, le droit aux opinions, à la parole, ça passe aussi par faire la paix sur un territoire qui est en conflit, parce que le au niveau de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, il y a toujours des heurts, il y a toujours de temps en temps des morts, il y a toujours la guerre, en fait, il faut bien se rendre compte de ça, il y a toujours les fusils, les armes qui sont pointés d'un côté ou de l'autre. Donc c'est peut-être aussi, je sais pas, une génération qui pense qu'il faut faire la paix pour mettre en place la démocratie. On verra ce qu'il en viendra par la suite avec ce monsieur Pachinian. Est-ce que les gens n'ont pas eu tort de lui faire confiance? En tout cas, donner son vote à monsieur Pachinian, pour beaucoup d'Arméniens et d'Arméniennes, c'était mettre un coup de pied au Parti républicain, cette vieille Arménie qui pensait qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait, comme elle voulait, et avec l'argent qu'elle voulait. C'est un symbole, ce monsieur Pachinian, pour l'Arménie, parce qu'il semble vouloir œuvrer à autre chose. Maintenant, beaucoup de politiques œuvrent pas grand chose une fois qu'ils ont le pouvoir. Donc, on verra. Est-ce qu'il va pouvoir? Est-ce qu'il va rien pouvoir? Ça, on donnera des suites dans quelques temps. Puis je vais continuer avec quelques élections. Vous savez qu'il y a eu des élections municipales en Tunisie. Elles étaient largement attendues. Après une révolution, on espérait que les élections municipales soient démocratiques en Tunisie. On va donner un petit peu des chiffres pour un petit peu saisir sur ces élections municipales ce qui s'est passé. Ce sont les listes indépendantes qui ont remporté le plus grand nombre de sièges, 32,9% des sièges. Alors, oui, c'est bizarre, je suis en train de vous donner des chiffres au niveau global de la Tunisie, alors qu'on est bien sur des élections locales, mais c'est pour vous dire que les choses sont en train de changer un petit peu en Tunisie, en tout cas au niveau local. Ennahda, qui est quand même le parti, normalement, premier, n'arrive que deuxième, suivi par Nida Tournes, qui s'est alliée, je vous rappelle, avec Ennahda dès 2014 pour essayer d'avoir une position commune, en tout cas d'avoir le pouvoir en commun. Reste que Ennahda arrive en tête dans 155 municipalités sur 350, que tout le monde espère aujourd'hui, entre Ennahda et Nida Tounes, obtenir la tête de Tunis. Chacun espère placer soit sa candidate, soit son candidat pour arriver à gagner. Les indépendants ont pris 96 municipalités, enfin sont présents dans 96 municipalités, et c'est donc dans la capitale que tout va se jouer, parce que c'est le signe d'un changement dans les partis, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'indépendants. Alors il y a des critiques qui disent que sur les indépendants, en fait c'est les gros partis qui ont placé des têtes pour essayer de faire de contourner en fait la mauvaise image d'Ennahda par exemple, ou de Nida Tounes, qui se sont associés alors qu'en fait les deux partis n'avaient a priori rien à se dire et étaient en opposition. Alors du côté de Nida Tounes, il y a un petit peu une crise au sein du parti, parce que l'idée c'est de savoir qui c'est qui demain va être le chef de ce parti. Ennahda a tout à jouer, parce qu'en étant quand on est leader, on a toujours un petit peu des difficultés à vouloir y rester. Et là, ce qui est dans le viseur, ce sont les élections législatives de 2019. C'est quel accord vont être trouvés aujourd'hui sur ces élections municipales en vue de ces élections prochaines de 2019. C'est-à-dire, est-ce que les alliances qui aujourd'hui existent pourront encore exister en 2019? Et est-ce que les indépendants qui peuvent arriver à être une force sur des élections locales dans des villes moyennes ou petites peuvent arriver à faire quelque chose au niveau national? Et là, c'est quand même un grand doute. On va donc poursuivre avec le Golan, si vous voulez bien.
Oui, alors vous avez bien évidemment toutes et tous entendu que les États-Unis d'Amérique avaient déchiré l'accord sur le nucléaire iranien. Les premières conséquences économiques vont se faire sentir pour quelques multinationales dont on se fout totalement, quelle que soit leur nationalité, puisqu'elles avaient commencé à investir en Iran. La population risque, elle, de le prendre en pleine gueule, mais ça, a priori, Donald Trump s'en fout complètement. Et puis tout de suite, quelques jours après la rupture de cet accord du point de vue américain, l'escalade de la violence est montée d'un cran. Alors, on imagine bien que Benjamin Netanyahou, qui est à l'origine du bombardement, donc non pas en Iran, hein, mais en Syrie, mais sur des positions détenues par l'armée iranienne, a profité un petit peu de la médiatisation de la fin de l'accord sur le nucléaire pour continuer de faire sa politique de bombardement. Alors bien évidemment, on ne fera pas les candides, hein, on ne pense pas que l'Iran est un pays sympa, notamment vis-à-vis d'Israël, ce qu'ils ne l'ont jamais été. Mais bon, Israël n'est pas un pays sympa non plus. Du coup, y a une belle escalade de la violence. Donc avec ces échanges de tirs, les tirs iraniens sont pas prouvés encore, mais on n'a pas de doute non plus qu'ils les aient vraiment tirés, puisque ça c'est arrivé pas mal de fois, hein, quand même, ces échanges de tirs depuis quelques années. Et voilà. Et on va revenir juste pour rappeler quand même ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce Golan? Il n'y a personne qui habite dans le Golan, il faut quand même en avoir conscience. Mais c'est un plateau qui est ultra, ultra stratégique. Il surplombe la Galilée, le lac de Tibériade aussi, qui est contrôlée, alors cette partie-là, elle est contrôlée par Israël, et puis de l'autre côté, du côté du côté syrien, le Golan, bah, c'est une route, c'est un endroit où passent pas mal de choses, donc c'est un lieu important, surtout pour les Syriens, puisque historiquement, c'était à la Syrie. Alors, si on fait un petit peu d'histoire récente, on va pas aller très loin, on va aller jusque dans la fin des années 60, l'armée israélienne a conquis le Golan le 9 juin 67, donc c'est pour des raisons de réaction avant tout à l'armée syrienne qui tirait un petit peu sur les positions israéliennes un petit peu plus loin. Donc l'armée israélienne, c'est l'époque hein, des guerres dans la région, l'armée israélienne en a eu marre et est assez logiquement allée taper dans l'armée syrienne qui était là. Le problème, c'est qu'ils n'en sont pas vraiment partis, puisque alors il y a eu une deuxième guerre, la guerre d'octobre 73, où ils ont récupéré encore un bout. Alors, à un moment, il y a eu quelques petits échanges de territoire. Il y a même eu une création en 1974 d'une zone de démilitarisée, une DMZ, hein, comme entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Donc, c'est une assez bonne idée hein, d'avoir créé une zone démilitarisée entre la Syrie et Israël, vu l'état belliqueux que des deux belligérants. Il y a une force de l'ONU hein, qui est présente là-bas, la FNUOD, FNUOD. Bon, c'est pas très efficace, il faut quand même le dire. Alors, la FNUOD, déjà, ils ont perdu, ils ont eu des soucis, il y a eu des militaires qui avaient été enlevés par Al-Qaïda, ou la branche syrienne d'Al-Qaïda, qui a été libérée. Enfin, c'est une région qui est très, très, très tendue. Alors, historiquement, il y a quand même des gens qui vivaient avant. Hein, ils étaient à peu près 150 000 personnes. Quand il y a eu ces guerres entre 67 et 73, ils sont presque tous partis. Ils restent aujourd'hui à peu près sur les 150 000 personnes, 18 000 habitants historiques, on va dire les Syriens. En fait, ce sont ce qu'on appelle des druzes. Donc les druzes, hein, ce sont des musulmans qui sont psychédéliques un peu, on a l'impression qu'ils ont fumé des choses, donc des musulmans qui sont raccordés au chiisme mais qui sont pas reconnus par les chiites hein, ils croient en la réincarnation, enfin des choses comme ça. Donc voilà, c'est une branche qu'on trouve essentiellement en Syrie et au Liban, cette branche de l'islam. Donc eux, il en reste encore 18 000 là. Ils sont occupés par l'armée israélienne, par l'État d'Israël. Il y en a très très peu, hein, compris dans ces druzes syriens, la nationalité israélienne. Il y a des druzes aussi en Palestine, eux, et donc en Israël aujourd'hui. Eux, il y en a une grande partie qui ont pris la nationalité israélienne. Mais dans cette région du plateau syrien, non. Et puis, donc, en théorie, il devrait rester que ces 18 000 personnes. Sauf que, bien évidemment, Israël a tout fait pour que, bah, il n'y ait pas que les habitants d'origine, en tout cas ceux qui ont osé rester, qui soient là. Et du coup, 20 000 colons israéliens se sont installés dans cette zone-là, répartis en 33 implantations, toutes illégales au niveau du droit international. Alors, pourquoi, alors en dehors de l'idée de colonisation des colons israéliens, pourquoi il y a autant d'intérêt? Comme je l'ai dit, il y a le Jourdain, et donc la vallée du Jourdain, avec ce fleuve qui passe là, le lac du Tibériade. Bon, voilà, vous avez compris, l'enjeu c'est l'eau. La guerre de l'eau avait débuté au milieu des années 60 parce que Israël accusait la Syrie de détourner une partie des eaux. Alors, ce qui n'était pas totalement faux et pas totalement vrai, ce qui était vrai dans le sens que quand on est en amont d'un fleuve, eh ben, on pompe sur le fleuve parce qu'on a besoin d'eau et ça en fait moins en dessous. Ce n'était pas forcément au départ une volonté d'emmerder Israël, c'était une volonté de faire de l'agriculture, etc. Ensuite, bien sûr, est venue l'idée d'emmerder Israël, mais c'est venu finalement, à mon avis, en deuxième étape. En tout cas, il y a un enjeu important de l'eau, du coup c'est pour ça qu'Israël ne veut pas lâcher le plateau du Golan, parce que Israël, et notamment la vallée du Jourdain, qui est occupée hein, par Israël, a besoin d'eau, puisque c'est la région très agricole de ce coin-là. Le reste, c'est quand même pas mal désertique, alors que là, on a une grosse région agricole. Donc voilà où on en est. Alors depuis le début de la guerre en Syrie, donc on va dire en 2011, il y a eu un retour des échanges armés entre le sud syrien et le nord d'Israël, essentiellement dû au début aux milices qui combattaient l'État syrien, donc plutôt des islamistes du côté de Daesh ou des brigades, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Et puis ensuite, depuis quelques temps, il n'y a plus ces rebelles-là. Il y a l'armée syrienne qui est présente avec l'armée iranienne, et c'est bien souvent l'armée iranienne, voire le Hezbollah, qui est à l'origine des tensions dans la région. Donc voilà, quelques tirs ces derniers jours, la montée, une escalade de la violence dans cette région. Il y a eu des appels à la paix, tout ça, fait par différents dirigeants pleins de pouvoir, mais qui finalement ne se servent pas de leur pouvoir pour faire quoi que ce soit. Donc ils font juste des rappels à l'ordre, ce qui était le cas ridicule d'Emmanuel Macron. Donc voilà, pas de renfort de l'ONU au milieu, rien du tout. Donc la situation... est pour l'instant tendu, et on sent une belle escalade possible, en tout cas. C'est encore à moi ? Ah oui. Oui, un petit mot sur la Mauritanie. Alors, très exactement, la République islamique de Mauritanie, c'est son vrai nom. Donc, c'est un pays qui fait la frontière entre l'Afrique noire et le nord de l'Afrique avec le côté maghrébin. C'est un pays donc qui a deux types de populations qui sont pas toujours d'accord. Donc, c'est un pays qui est souvent très tendu au niveau local, au niveau interne, à cause de ces différences-là. Savoir que la population plutôt noire est très discriminée en Mauritanie. Et finalement, le régime qui tient le pays est un régime ultra dur, ce qui permet essentiellement de calmer la rébellion interne au pays. Le régime se sert en général de l'islam pour taper sur ses populations. Il y a une belle instrumentalisation de la religion dans la Mauritanie, alors que tous les Mauritaniens ne sont pas ultra religieux non plus. Il faut avoir ça en tête, c'est vraiment une instrumentalisation. Et on a appris qu'il y avait un durcissement de l'article 306 du code pénal mauritanien qui concerne l'apostasie. Donc l'apostasie, c'est ceux qui renient leur religion. Et là, ça concerne essentiellement l'islam, puisque il y a quasiment officiellement que des musulmans dans la République islamique de Mauritanie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont changé ? Alors, l'ancien code pénal disait que tout musulman coupable de crime d'apostasie, alors soit par la parole, soit par des actions, etc., serait invité à se repentir dans un délai de 3 jours. Ça laissait entendre que si on disait « Dieu n'existe pas », ça c'est déjà de l'apostasie, hein. Je pense que Dieu n'existe pas. Les risques étaient importants. Le gars qui disait ça ou la fille qui disait ça se faisait arrêter. Elle pouvait dire « Non, mais je me repens, c'était une erreur. » Et ils échappaient à la condamnation, etc. Il y avait ce petit porte de secours du repentir, ce qui est triste, hein, mais il y avait ça. Et bien ça, c'est tout supprimé. Ça y est, c'est fini. Le repentir, ça ne sert plus à rien. La peine de mort est devenue obligatoire en cas de propos blasphématoire, d'acte sacrilège et donc d'apostasie, c'est-à-dire de dire que Dieu n'existe pas, ou que cette religion, ou de changer de religion, etc. Enfin voilà, toutes les choses possibles liées à l'apostasie. Donc voilà, le Mamadou Batia Diallo, donc le ministre de la Défense, a expliqué que les dispositions de l'ancien texte de loi étaient en contradiction avec la doctrine officielle de l'État de Mauritanie, qui s'appelle le Malekite. Et donc il a dit, voilà, la nouvelle loi corrige ce dysfonctionnement. Donc les quelques athées qui ont un peu de courage ou qui sont inconscients en Mauritanie savent que maintenant ça va devenir encore plus compliqué. Donc voilà. Alors, il y a quelques réactions, pas beaucoup. Il y a notamment des ONG qui sont remontées au créneau en appelant un peu à ce que l'État mauritanien revienne sur la modification. Comme elles sont suivies par aucun gouvernement du monde quasiment, pas grand-chose ne va se passer en Mauritanie. Il faut savoir qu'ils ont aussi à nouveau demandé la remise en liberté de Mohamed Cheikh Ould Kaïtir, donc qui est un Mauritanien de 30 ans, qui a été déclaré coupable d'apostasie, qui a été condamné à mort en décembre 2014, parce que si on, à l'époque où il y avait le repentir, si on ne se repentait pas, on était condamné à mort quand même pour apostasie. Donc lui, il avait critiqué justement sur Facebook l'instrumentalisation de la religion au service de la discrimination. Sa peine avait été ramenée à 2 ans d'emprisonnement et ben, il a fait ses 2 ans, mais ils ne veulent pas le libérer, donc il est toujours en prison. En fait, ce qu'attend l'État, c'est qu'il attendait cette loi pour pouvoir, puisqu'il va y avoir un procès en appel, ou en cassation plutôt, en cassation, et pour pouvoir définitivement le condamner à mort, et pouvoir assassiner ce blogueur qui a critiqué l'instrumentalisation de la religion. Il n'était même pas forcément allé à dire que Dieu n'existait pas, tout ça, non, il avait critiqué l'instrumentalisation de la religion. Donc voilà, c'est un beau recul sur un pays qui était déjà super bas, hein, où il y a très très peu de liberté, où la population elle est brimée de partout, et en plus les conditions économiques sont exécrables. Il y a une vraie discrimination entre les différents types de Mauritaniens. Bon, c'est un recul supplémentaire pour la Mauritanie qui était déjà en queue de peloton sur la peine de mort, sur la liberté de conscience et la liberté de ne pas croire. Donc voilà, c'était la mauvaise nouvelle du jour. Et je vais parler un petit peu d'Europe maintenant. Du point de vue Union Européenne, un petit peu, enfin sur l'Union Européenne, il y a une directive sur l'énergie. Alors j'ai plein de fois, j'ai voulu en parler, puis je ne l'ai pas fait, c'est super compliqué, c'est toujours très technique, les directives. Donc on rappelle, hein, c'est proposé d'abord par les ministres, hein, parce que quand on fait semblant dans un pays de dire c'est l'Europe qui nous impose les choses, je vous rappelle que le Parlement n'a pas le pouvoir de choisir les lois qui vont être votées, mais de les modifier. C'est bien issu des ministres de l'Union Européenne que viennent ces lois. Donc là, cette directive, ou de la Commission Européenne, cette directive, c'est une directive sur l'efficacité énergétique. Et il y a un député hongrois, écolo-hongrois, qui est chez les Verts, Benedikt Javorek, qui a un peu expliqué où on en était de la négociation de la directive énergétique. Donc ça fait partie d'un paquet de lois sur les énergies dites propres qui avait été proposé donc par la Commission européenne. En novembre 2016, les États membres... alors c'est compliqué, il faut négocier en fait, c'est tout le problème de... Enfin c'est tout le problème, c'est toute l'histoire de cette Europe, ce qui paraît logique quand on est plein dans un gouvernement, enfin un truc qui gère plein d'entités. Donc il y a des négociations notamment sur la quantité d'efficacité énergétique qu'on demande d'ici 2030. Alors le Parlement européen avait dit qu'il fallait améliorer de 40% l'efficacité énergétique, c'était essentiellement sur le bâtiment, d'ici 2030. C'était beaucoup trop pour les capitalistes, c'était beaucoup trop pour les libéraux, c'était beaucoup trop pour les pays de l'Est qui veulent faire aucun effort sur l'écologie. Donc il y avait une négociation au profit d'un compromis à 35%. Il y a une prochaine rencontre d'ailleurs qui devrait arriver le 16 mai pour essayer de faire aboutir les négociations. Je vous dis, ça a commencé en novembre 2016, on est en mai 2018, on n'a toujours pas de directive et rien n'a abouti encore. Les points d'achoppement, donc c'est cette quantité d'économie d'énergie. Alors, la présidence bulgare, qui est l'actuelle présidence de l'Union européenne, a tenté de baisser le score en disant, le chiffre, en disant, bon, on pourrait mettre entre 31 et 33% d'efficacité énergétique, enfin d'amélioration énergétique d'ici 2030. Ça semble proche du consensus. C'est critiqué, bien évidemment, par une majorité des eurodéputés, enfin une partie des eurodéputés, et puis bien évidemment par les écolos. Alors, au final, il y a 3 groupes, en fait, qui s'opposent sur cette directive. Il y a ceux qui sont classés progressistes. La France, la Suède, les Pays-Bas, le Portugal, le Luxembourg. Il y en a même qui... Il y a, je crois, le Danemark aussi, l'Allemagne, qui voudraient même aller au-delà des 30 ou des 40% même. Il y a ceux qui sont mieux, ils ne savent pas trop quoi faire. Il y a l'Espagne, l'Italie, la Belgique, l'Autriche, la Grèce et la République tchèque, qui, eux, du coup, seraient plutôt sur un objectif à 30%. Puis il y a ceux qui sont... pas du tout d'accord avec tout ça, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie, la Lettonie. Donc ça se bataille là-dessus. Et dans la bataille, Il y a un nouvel élément qui est apparu récemment, c'est dans l'article sec de cette directive, c'est de rajouter le secteur des transports, parce qu'essentiellement, je l'ai dit tout à l'heure, c'était sur l'habitat, rajouter le secteur des transports. Et alors là, ça, à nouveau, ça clash. Il y a ceux qui défendent le transport polluant, hein, il y a ceux qui sont plutôt pour une évolution vers un transport moins polluant, voire pas polluant, et donc ça bataille. Et ça nous montre un truc, c'est que finalement, quand c'est sur des trucs très importants, ça avance pas. Parce que là, ça bataille, ça chipote sur des chiffres d'amélioration énergétique. En fait, c'est des chiffres qui concernent la sauvegarde de la planète, en fait. Et les pays où les partis de droite, du coup, en Europe, le patronat à travers les différents lobbies font ralentir au maximum les choses. Alors, ça dépend du patronat, du type de patronat. Le patronat qui est plutôt écolo, parce qu'il y a du patronat qui fait du business sur les énergies vertes, lui, il est plutôt pour. Enfin voilà. Et du coup, ça bataille. Et ce qui est triste dans ces batailles, puisque la démocratie, c'est bien quand on discute et qu'on cherche des compromis, sauf quand ça fait que 2 ans qu'on attend une directive et que ça concerne l'état de la planète. Voilà. Donc c'est juste la tristesse un peu que j'avais en voyant ces négociations ne jamais aboutir. Alors tous les 2 mois on a des articles et tous les 2 mois ça bouge pas. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Je sais pas si on aura. Enfin, on aura, c'est sûr, une directive un jour, mais on l'attend encore. Et a priori, elle sera beaucoup moins ambitieuse que ce qui est prévu. Ceci dit, Macron, qui à travers la France soutient cette directive, il n'a jamais mis en place dans ses politiques autant d'écologie qu'il y a dans la directive, hein, faut le savoir. Et alors, je vais rester avec l'Union européenne et Macron, peut être un beau menteur quand il le veut. Alors, il y a eu une belle lettre ouverte de l'ensemble des syndicats français en ce début de mai. L'objet de leur lettre, c'est sur une autre directive européenne qui est en cours de discussion, qui s'appelle « Vie privée, vie professionnelle » et qui propose notamment une meilleure indemnisation du congé parental. Donc, grosso modo, ça va jouer sur l'égalité du congé parental. Les hommes et les femmes ont le droit de le prendre, etc. Il y a tout un principe sur l'égalité homme-femme, hein, dans cette loi, dans cette directive. Et puis, il y a aussi plein d'autres choses. La possibilité de fractionner le congé parental sur plusieurs années, jusqu'aux 12 ans de l'enfant. Il y a des indemnités qui seraient payées au niveau des indemnités journalières de maladie, ce qui est un peu plus que dans certains pays, que ce que donne notamment la France, par exemple, à ceux qui prennent celles et ceux qui prennent le congé parental. Il y a pas mal de choses comme ça dans cette directive qui vont dans l'amélioration plutôt sociale et dans l'amélioration de l'égalité homme-femme. Alors, il faut savoir que quand il s'est exprimé au sujet de l'Europe à Strasbourg, on était mi-avril, il avait été, M. Macron, interpellé par une cinquantaine d'associations familiales, des associations aussi d'handicapés et de personnes âgées, puisqu'il y a plein d'autres choses dans la directive, en disant ce serait bien que la France soutienne la directive. On dit, oui, pourquoi la France ne soutiendrait pas une directive comme ça sur l'égalité homme-femme, sur les congés parentaux, tout ça. Sauf que non. Sauf que M. Macron, donc c'est la voix de la France, hein, dans la démocratie représentative, il s'oppose à la directive. Alors il s'est justifié devant cette interpellation, il a dit non, je suis d'accord sur les principes, mais ça va coûter trop cher, il faut arrêter. Donc là, on voit très bien, hein, Macron, c'est un libéral, quand ça peut embêter soit les finances publiques parce qu'il fait tellement de cadeaux au patron qu'il n'a plus de marge de manœuvre, hein, et bien il dit non. Donc bref, les qualités des droits, il est d'accord si ça ne coûte pas un copec. Hein. Donc on est mal parti avec cette directive. Voilà. Alors, les réactions des syndicats ou des associations qui s'occupent de ce sujet-là, on dit arrêtez de dire n'importe quoi. Le coût, il y aura effectivement un coût direct plus important pour financer ce congé parental, mais par contre, on va faire des économies énormes sur le système d'accueil du jeune enfant, puisque si des parents prennent des congés parentaux, ils vont s'occuper de leurs enfants plutôt que de les donner à des structures d'accueil. Enfin voilà, et il y a un calcul qui a été fait, et en fait, voilà, le coût n'est pas très important, et c'est vraiment plus presque question d'idéologie, hein, qui pousse Macron à bloquer tout ça, ou alors il ne réfléchit pas, mais bon, a priori, il réfléchit en général. Ce qui est drôle, au final, c'est que M. Macron se trouve allié avec les Autrichiens et Orban, par exemple, donc populiste, parce que quand ça l'arrange, il va s'allier avec l'extrême droite, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Ce qui est triste aussi, c'est qu'il avait dit que l'égalité homme-femme, c'était soi-disant la grande cause du quinquennat, quand une directive met l'égalité homme-femme au sein d'un truc un peu sur la famille, il bloque. Voilà, Marlène Schiappa, qui est le petit chien-chien, un petit peu, enfin qui obéit, on va dire, au doigt et à l'œil plutôt, pour pas tenir des propos méprisants, qui est juste une exécutante, qui obéit au doigt et à l'œil à Macron, a trouvé plein d'excuses, qui se rapproche exactement de Macron. Donc voilà, c'est triste qu'elle aussi défende pas l'égalité homme-femme quand ça remet trop de choses en cause. Elle utilise pas mal d'arguments, d'ailleurs, très fallacieux. Donc, voilà. Alors, Macron avait proposé... s'était engagé à proposer une nouvelle directive, une réécriture française. Il l'a toujours pas fait. On sent que c'était juste un truc pour faire patienter tout le monde. En tout cas, il y a des chances que la France vote contre à travers la voix de Macron. C'est quand même juste la honte.
Alors, on va parler un petit peu d'économie maintenant, et on en a pris une bien bonne. Vous savez, il arrive parfois que des marques de groupes différents s'associent. Il y a parfois des multinationales qui s'associent, qui se vendent des choses, qui partagent des choses. Et alors là, c'est une alliance tout à fait commerciale entre deux gros du café. J'entends par là Nestlé, et le deuxième gros, c'est Starbucks. Alors, on a pris lundi que Nestlé va acheter le droit de commercialiser les produits de la marque Starbucks pour un montant, vous avez bien compris. Donc l'idée, c'est pas d'intervenir dans... Je vais vous expliquer avant de vous donner le montant. On va garder ça pour la fin peut-être. L'idée là, c'est que Nestlé, je vous rappelle, groupe agroalimentaire extrêmement puissant, vieux et puissant, va pouvoir utiliser l'image de Starbucks, certains des produits Starbucks, pour les vendre hors des cafés Starbucks. Je vous rappelle qu'il y a à peu près 30 000 cafés Starbucks dans le monde, dans 80 pays à peu près. Ça va tellement vite avec Starbucks qu'on peut presque arrondir, on ne sera jamais bien loin. Il y a 12 000 cafés boutiques aux États-Unis. Starbucks, je vous rappelle qu'à la base c'était du café, et puis maintenant on peut y acheter tout un tas de trucs, hein, de la tasse.
Et alors, à Starbucks, les gens qui prennent vraiment du café, c'est-à-dire un café pur, sans truc rajouté dedans, ils sont ultra minoritaires aujourd'hui.
Ah bah, la plupart des gens, effectivement, consomment des boissons extrêmement calorées, d'ailleurs, soit dit en passant, avec de la crème,
avec la chantilly,
voilà, du chocolat, enfin tout un tas de trucs bien différents, effectivement, du Starbucks. Il faut se replonger dans l'histoire du Starbucks, là, du coup, c'était pas prévu ce que je suis en train de vous raconter, mais il y a eu des guéguerres entre les fondateurs, puisqu'il y a un moment, il y en a un des deux qui voulait rester, mais vraiment que sur le café, sur quelque chose d'éthique et de différent aux États-Unis d'Amérique, où on boit du café absolument dégoûtant, pour être tout à fait poli.
La première chaîne de café de qualité aux États-Unis.
Et que tout de suite a vrillé, parce qu'il y a eu un tel succès qu'il y a eu tout un tas de trucs qui ont été proposés, dont maintenant vous pouvez acheter votre mug, votre thermos, enfin tout un tas de cochonneries à côté de votre café qui n'en est plus dans un Starbucks. Donc je disais pratiquement 30 000 cafés à travers le monde dans près de 80 pays. J'arrondis encore une fois. Donc là, l'idée, c'est pour Nestlé de s'installer hors des cafés, des boutiques Starbucks, pour permettre de se vendre des trucs Starbucks dans les supermarchés.
Alors, il y en a déjà.
Alors, on trouve des produits. Alors, Nestlé ne va pas trouver, par exemple, les petites boissons au café qu'on trouve dans certains supermarchés. Ça va rester du Starbucks. Mais Nestlé va pouvoir vendre d'autres choses, donc va pouvoir exploiter un autre filon. Alors, je vais quand même tout de suite en venir au pognon. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça coûte, ce genre d'achat de droits?
Ah, cher.
Alors, en milliers de dollars?
Ouais, en centaines de milliers de dollars.
En millions?
En millions de dollars.
Ben mon ami.
100 milliards ? Non, quand même pas.
7 milliards 100 millions de dollars, ce qui nous fait 5 milliards d'euros. Ah ouais. Ce sont pratiquement 6 milliards d'euros, j'arrondis encore une fois. Ce sont des sommes absolument phénoménales. On parle de multinationales qui trouvent des accords commerciaux. Il faut se rendre compte de ce que vous buvez. Votre machin à 4 euros, en fait, derrière, on parle de multinationales qui brassent des milliards, qui passent des accords avec d'autres multinationales pour des milliards. Alors, l'idée pour Nestlé, c'est un fort du café, sans jeu de mots. L'idée, c'est qu'il faut comprendre que Nestlé est pas très fort aux États-Unis d'Amérique, en Amérique du Nord, d'une manière générale. Donc, il fallait trouver un moyen de s'accrocher. Et Nestlé est en train, depuis quelque temps, de... c'est un secteur très concurrentiel, le café, et en particulier dans les boutiques et les supermarchés. C'est-à-dire, là où vous arrêtez pour vous asseoir et là où vous allez l'acheter pour le ramener à la maison. Globalement, Nestlé a du mal à s'imposer aux États-Unis d'Amérique. Alors, on connaît évidemment en France beaucoup Nespresso et Nescafé, qui sont les deux marques symboles de Nestlé dans le café, mais ailleurs dans le monde, hein, vous allez le café soluble dans le monde arabe est extrêmement connu avec Nestlé. En France, on connaît beaucoup ce petit machin avec les dosettes. Ça fait un carton. Il y a pas de souci. Par contre, aux États-Unis d'Amérique, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a la présence d'une autre structure qui est tenue par les Redman, qui est une famille extrêmement riche et extrêmement bien implantée en Amérique du Nord et aux États-Unis d'Amérique. Jab, c'est donc l'entreprise hein, des Redman, a d'ailleurs racheté le fabricant de machines Keurig Green Mountain, qui est un fabricant des États-Unis d'Amérique, et c'est le premier vendeur de machines à dosettes, excusez-moi, aux États-Unis d'Amérique. Ce qui n'est pas du tout le cas de Nestlé. On a l'impression que Nestlé est tellement fort et tellement puissant.
Et puis, ils font de la pub avec des acteurs américains, donc on se dit ils sont super forts aux États-Unis en fait.
Eh ben non, pas du tout. Donc là, il fallait trouver un moyen pour Nestlé de rentrer sur le territoire nord-américain d'une manière beaucoup plus brutale et agressive en termes de commerce, bien évidemment, pour arriver à casser cette concurrence qui est bien implantée, qui a déjà des stratégies de vente très développées. Donc là, il fallait y aller. Et en prenant ce partenariat commercial avec Starbucks, ça lui permet de se positionner différemment et dans tout le monde entier, si je vais le dire, sur toute la planète Terre, je vais le dire mieux, parce que Starbucks a, comme je vous le disais, près de 30 000 cafés boutiques, et que c'est une force de vente absolument spectaculaire, que tout le monde connaît la marque. Il y en a de partout, même dans des territoires comme la Chine, il n'y a peut-être pas en Corée du Nord, bien évidemment, mais il y en a de partout, partout, partout. C'est assez impressionnant, et là où il n'y en a pas, demain il y en aura un. De toute façon, c'est absolument une obligation, d'autant plus que Starbucks, là où les fondateurs s'étaient aussi engueulés, c'est que certains voulaient rester qu'avec le café, mais non, vous y trouvez de la bouffe. Il y a du traiteurs, des sandwichs, des tartes salées, du muffin, tout un tas de choses. Et à la base, c'était pas censé se passer comme ça. Aujourd'hui, vous pouvez y passer votre journée en y mangeant, en y buvant avec votre ordinateur. Et dans des pays, Starbucks fonctionne exactement comme ça. Donc, Nestlé va s'appuyer sur cette marque et tenter de faire imposer son Nescafé Nespresso là où l'entreprise, la multinationale, va pouvoir aussi exister avec du Starbucks. Donc, c'est un moyen de se développer comme la concurrence et d'y aller finalement fort. Donc Nestlé est en train de faire plein d'acquisitions, de prendre des participations dans tout un tas de d'entreprises à travers le monde, histoire de faire de s'installer là où normalement on boit beaucoup de café, c'est-à-dire que l'Amérique du Nord, il n'y a pas que l'Europe, il n'y a pas que l'Asie et il n'y a pas que le Moyen-Orient. Il faut, pour Nestlé, qui quand même arrive à nous faire boire de l'eau à peu près partout dans le monde, arrive aussi à nous faire boire du café à peu près partout dans le monde. C'était quand même la grosse affaire en milliards de dollars dans l'économie du monde. Je vais vous parler maintenant assez rapidement des petits profiteurs qui s'amusent à nous vendre du mai 68. Alors on va déjà parler de ce qui s'est passé au théâtre de l'Odéon, c'est un théâtre à Paris, je vous rappelle, qui avait décidé lundi de proposer parce que c'est finalement un peu ce qu'ont vécu les gens à l'extérieur, un spectacle nous rappelant que le théâtre de l'Odéon a été occupé en mai 68 et a été un lieu de la contestation. Résultat, 4 interpellations, 2 gardes à vue, hein, quand même. Ah oui, pas pendant le spectacle, bien évidemment, mais il faut savoir, alors, le slogan quand même de ceux et de celles qui sont intervenus après coup, c'est on n'oublie pas, on bargne pas, on reviendra. Ils l'ont un peu mauvaise quand même, il et elle, ceux qui ont voulu aller faire coucou à l'intérieur du théâtre, parce que pendant que il y avait ce spectacle à la mémoire de mai 68 sous la coupe d'Antoine Debecq, un historien, il y a des 18ards, comme ils s'appellent et elles s'appellent, c'est-à-dire ceux de 2018, qui sont arrivés tranquillement et qui ont voulu rentrer à l'intérieur du théâtre de l'Odéon, évidemment pour dire, nous aussi on est la contestation d'aujourd'hui, rendons-nous hommage tout de suite, ça sera fait. Simplement, ça s'est pas bien passé, donc ils ont commencé à virer les barrières, et puis hop, en 5 minutes, la direction avait appelé les flics qui ont envoyé en 5 minutes, montre en main, les CRS. Le petit monde qui était venu célébrer mai 68 parce qu'ils sont dans la rue, dans la contestation, les universités, se sont fait gazer. À l'entracte, il paraît que les gens ont cru que dehors, ce qui se passait, c'était un rappelling, pour vous dire que des fois, dans le spectacle, le spectateur est bête, quand même. Non, les gens étaient en train de se faire gazer, très cher ami, mais finalement, dans la salle, ça s'est su. Donc, quand les gens sont venus après l'entracte, il y a eu du malaise, il y a eu des artistes qui devaient se produire, qui ont refusé de monter sur scène, il y a eu des discussions. Il y a même eu d'ailleurs Rodolphe Burger, qui est un musicien, un compositeur, qui a voulu faire rentrer des gens il a pas réussi, hein, ça c'est tombé à l'eau. Comment certains et certaines veulent profiter de mai 68 par la mémoire, mais ne veulent surtout pas revivre les événements. Et dans les autres profiteurs de mai 68, il faut savoir que les affiches s'arrachent aujourd'hui dans les salles de vente.
C'est souvent des fausses d'ailleurs.
Alors, la grande difficulté, effectivement, là je viens tout de suite un petit peu à une conclusion qu'on aurait pu faire.
C'est que... de la sérigraphie, du coup, ils ont pu en retirer après. Quoi.
Savoir de quand date cette affiche. Alors, il y a des vendeurs qui sont très honnêtes en disant il faut acheter le slogan.
Ouais, voilà.
Et la sérigraphie, c'est-à-dire que il faut acheter finalement l'acte politique qui était gravé sur ces affiches et non pas croire que ces affiches aujourd'hui ont un potentiel de patrimoine en tant qu'objet. C'est le slogan qui est dessus qui est l'objet patrimoine. Et là, il y a des vendeurs qui sont nets, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc ça, c'est très très à la mode. Arcurial s'y est mis, l'étude Melun. Il y en a d'autres comme ça qui, fur et à mesure de cette année 2018, commencent à nous vendre de la sérigraphie avec parfois des prix qui sont quand même pas mal, hein, 3 380 € chez Arcurial pour La beauté est dans la rue, hein, une sérigraphie. C'est quand même pas mal pour un truc qui a peut-être été fait avant. D'autant plus que ces ventes ne sont parfois pas du tout accompagnées de l'histoire de ces ateliers. Il y en a eu deux à Paris qui ont travaillé d'une manière extrêmement différente pendant les événements de contestation de 68. Ça s'est pas juste fait comme ça. Il y a eu des sérigraphies qui ont travaillé avec des ateliers très précisément. Certaines d'une manière beaucoup plus poétique, les autres, le deuxième atelier, dans une manière beaucoup plus engagée et peut-être avec des slogans un peu plus rageurs, voire radicaux et violents, diraient certains et certaines. Nous, on les trouvera simplement rageurs. Donc voilà, parfois ces ventes ne sont accompagnées de rien du tout dans l'histoire, et c'est juste un bout de papier qu'on vous vend, alors qu'en fait, effectivement, d'autres vont vous raconter que c'est le slogan qui est aujourd'hui important, parce que certains restent encore aujourd'hui, ils sont repris même dans la publicité. Donc c'est ça, cette valeur. Mais c'est quand même marrant de vendre aujourd'hui la contestation, la mobilisation de 68 dans des salles d'études, avec le marteau... salle de vente, oui, les études avec le marteau qui s'abaisse. Il y a quand même des profiteurs de tout. Il y a même aujourd'hui, il y a des séries de photos aussi qui vont être vendues. Alors c'est le bon moment parce qu'on est en plein événement patrimoniaux et commémoratif de mai 68. Donc évidemment, ça vaut plus cher qu'en 2020, hein, photo prise en mai 68. Mais reste qu'effectivement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de profiteurs, que ça soit dans le cadre des spectacles comme au théâtre de l'Odéon ou dans les salles de vente où les enchères... alors c'est pas excessif, hein, non plus, on n'atteint pas 100 000 € pour une sérigraphie. Mais reste qu'il y a quand même des gens qui cherchent à faire du petit profit sur cette affaire.
Et du coup, tu as sauté Nike?
Oui, j'ai sauté Nike. Parce qu'on peut faire un petit mot sur Terry Gilliam?
Oh oui, mais ça va être super court.
C'est pas grave, allons-y.
Donc, Terry Gilliam qui a fait un AVC le week-end dernier, mais qui s'en sort plutôt pas mal.
Ça, c'était pour le petit suivi People.
Ouais, c'est important. Attends, Terry Gilliam qui a fait des films phénoménaux, hein, des chefs-d'œuvre.
Tout à fait.
Je citerai juste Brazil pour rappeler un peu ce qu'il a pu faire.
Donc, dans le cadre de nos sociétés pas tout à fait démocratiques, c'est le film qui va bien, même si il a un peu vieilli à l'image. Non, en tout cas, le contenu est toujours là. Quoi.
Voilà, c'est une société administrative qui surveille sa population. Ça ressemble à ce qu'on est en train de devenir. Donc oui, je voulais...
D'ailleurs, pour dire que c'est un film contestataire, c'est qu'il y a plusieurs fins. Et que quand un film a plusieurs fins, c'est qu'il peut pas se vendre pareil avec une fin pourrie comme en Europe, aux États-Unis d'Amérique. Et bah, moi je dis, quand un film est obligé d'avoir plusieurs fins parce qu'il peut pas se vendre correctement aux États-Unis d'Amérique, c'est qu'il a quelque chose à dire, le film.
Bah, de toute façon, c'est juste génial.
Voilà. Non, mais pour dire. Voilà.
Donc, le réalisateur de Brazil, Terry Gilliam, qui a survécu à son AVC, est en bataille juridique avec son producteur Paulo Branco. Grosse bataille, hein, puisqu'il y a le Festival de Cannes qui a ouvert ses portes, ou ses écrans, vous appelez ça comme vous voulez, il y a quelques jours. Et il y avait prévision de projeter en guise de fermeture. La clôture du 71e Festival de Cannes, de projeter le dernier film de Terry Gilliam, le dernier en cours, oui.
Ah oui, enfin c'est la chose, on va l'appeler la chose.
Le film qui s'appelle L'homme qui tua Don Quichotte, soit le film maudit du cinéma moderne. Hein. Il y a eu plusieurs tentatives de tournage qui a donné lieu à un documentaire dont j'ai perdu le nom d'ailleurs, qui montrait les péripéties pour tenter de réaliser ce film, avec quand même des gens qui étaient branques dans l'organisation du film.
Non, il n'a pas eu de chance, il a eu de la pluie quand même.
Oui, il a eu les avions. Parce
la pluie, les boues, ils ont eu l'avion, ils ont eu un acteur qui se fait mal. Enfin, ouais. Tout est parti quand même.
Donc c'est
En cacahuète, hein.
Ouais, tout est parti en cacahuète. Donc ça fait plus de 20 ans qu'il essaye de faire ce film, Terry Gilliam. Donc voilà. Il a finalement, parce qu'on n'en a pas entendu parler, retourné une vraie version. Il a fait un film complet. L'homme qui tue Don Quichotte, le problème c'est qu'il était en procès avec Paul Branco, qui estime détenir les droits. Alors ça, c'est le problème du capitalisme et de la culture. C'est que le réalisateur qui est, en plus a fait le scénario, tout ça, il possède pas les droits. Parce que quand il y a eu un fiasco sur le précédent tournage, l'assurance aurait récupéré les droits, voilà, et du coup le producteur a les droits. Bon, s'il y a des batailles juridiques qui sont juste ridicules et qui ne sont pas des batailles artistiques, en tout cas, Paul Branco essaye d'empêcher le film d'être projeté en clôture du Festival de Cannes. Et là, on a appris qu'il avait perdu. Puisque c'est tombé aujourd'hui, le tribunal de grande instance a autorisé la diffusion du film de Cannes avec la mention que je vais citer. La projection du film The Man Who Killed Don Quichotte, le titre anglais, lors de cette séance de clôture du Festival international du film, ne préjuge en rien des droits revendiqués par la société Almana Film Production et M. Paulo Branco sur ce film à l'encontre de monsieur Terry Gilliam et des producteurs mentionnés au générique qui font l'objet de procédures judiciaires en cours. Donc bref, ils ont mis tout ce qu'il fallait pour pas être attaqués. Ils ont dit voilà, on autorise mais les actions en justice continuent. Alors, presque automatiquement, on se dit, il est projeté en clôture du Festival de Cannes, il va pouvoir sortir en salle, puisqu'il est projeté le 17 mai, et en théorie, le 19 mai, il sortait en salle. Et là, il y avait à nouveau combat, bataille, tout ça. Et finalement, aujourd'hui, enfin, dans l'après-midi, on a appris que le film avait obtenu son visa d'exploitation. Ça veut dire qu'il peut être projeté. Donc le film va sortir normalement le 19 mai. Par contre, comme il y a des batailles judiciaires, si vous voulez voir le film, il faut y aller vite. Parce que normalement, le prochain procès, c'est le 15 juin. Et ça se trouve, le 15 juin, ils vont interdire le film. Donc le film ne va peut-être pas exister très longtemps. Donc si vous avez envie de voir ce film de Terry Gilliam, il faut y aller très rapidement après sa sortie. Parce que sinon, il risque de mourir vite, ce film. C'est triste hein, de voir la culture taclée par le business quand même.
Alors, il me semble, Lost in La Mancha,
le documentaire sur...
C'est ça, j'ai mis un peu du temps. Et juste ce qu'on aurait pu dire, c'est aussi les Monty Python.
Bah oui, il faisait partie de Monty Python.
Voilà. C'est parce que je n'ai pas fait mon sujet sur Nike, mais en l'occurrence, il a fait de la pub pour Nike et que j'aimerais savoir ce qu'il pense, Terry, de ce qui est en train de se passer chez Nike. Parce que vous le savez peut-être, vu que j'ai un petit peu du temps, que chez Nike, il y a un grand bouleversement. Il y a plein de gens qui sont en train de démissionner, enfin qui sont poussés vers la sortie précisément. Parce qu'il y a une grande enquête qui a montré qu'il y avait des gros problèmes de harcèlement, de discrimination au sein de Nike et que c'est une culture d'entreprise. C'est-à-dire que c'est pas juste un petit secteur dans une ville. Non, c'est une culture d'entreprise. Ça, de partout dans le monde, Nike apprend donc que les femmes, c'est des salopes, excusez-moi, parce qu'il paraît que dans les témoignages, certaines femmes se font traiter de salopes, que les mecs ont donc une grosse bite, hein, ça c'est pas moi qui le dis, c'est a priori les témoignages aussi, puisque on aime bien aller au striptease après les réunions, c'est un truc de mec, hein, voilà. Donc c'est ce qui ressort aussi de l'enquête. Il y a pour l'instant 11 hauts dirigeants qui ont quitté Nike hein, depuis le mois de mars. Celui qui était particulièrement visé, c'est Trevor Edwards, qui normalement aurait dû succéder à Mark Parker, le PDG actuel de Nike. Ce qui est intéressant avec Trevor Edwards, c'est que il avait été aussi amené un peu, parce qu'il est afro-américain, et que donc on disait, regardez, chez nous, on est coloré, mélangé, et on n'est pas raciste. En plus, il était censé être compétent. Donc c'était vachement bien. Sauf qu'a priori, c'est juste un homme qui aime tyranniser ses collaborateurs et collaboratrices, comme on dit. Il aime humilier les gens et en plus en public.
Ça a l'air sympa.
Oui, donc lui, quand il a été mis dehors, il a démissionné volontairement ou involontairement, on ne sait pas bien. Trevor Edwards, ça a fait beaucoup de bruit, parce qu'il était censé être une tête pensante chez Nike. Mais en même temps, on se dit que s'il prenait la place de Mark Parker, qui a créé hein, cette culture d'entreprise, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il y a une grosse enquête en interne hein, qui a été menée. Le New York Times avait publié une enquête fin avril sur cette culture d'entreprise au niveau de Nike. Il y a des femmes qui ont été voir les ressources humaines. Il y a un service à Nike, hein, quand même, c'est une multinationale. Il y en a même deux, trois. Et on lui a dit, globalement, rentre chez toi et tais-toi. Ou alors, ah bon, il se passe quelque chose, et jamais rien n'a été suivi. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu quoi que ce soit derrière pour aller agir contre ces hommes qui, pour la plupart, donc ce sont des hommes, qui ont été harcelés et discriminés des gens en interne de Nike, puisqu'il y a aussi une enquête qui montre que les gens de couleur, noirs par exemple, ont des soucis aussi chez Nike. Donc je vous rappelle que un des slogans c'était « Just do it », bah, « Just do it », prends la porte, un peu, c'est ça, mais c'était aussi « Just do it », fais ce que tu veux, discrimine et harcèle les femmes. Donc le slogan se voit un petit peu des deux côtés, hein, c'était une marque cool hein, quand même, hein, Nike. Alors, on n'a évidemment pas l'avis de Terry Gilliam, qui a fait, il me semble, deux pubs pour Nike, mais on n'a pas l'avis de tous ceux et de toutes celles qui ont le enfin le logo de l'équipementier sur leur maillot.
Tu veux dire les sportifs
ah bah qui sont sponsorisés par Nike. Qu'est-ce qu'ils en disent, ces braves gens, hommes et femmes?
Vous savez, ils n'ont aucun respect, ils ont vendu leur image.
Eh ah, bah voilà. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'en termes de finances, l'action n'a pas bougé.
Non,
tout le monde se fiche. Comme quoi, tu peux même virer tes hauts dirigeants, l'actionnaire, du moment que derrière, tu continues à vendre de la basket. Il s'en fiche, et tant que le pognon y rentre, on s'en fiche pas mal.
Il peut y avoir du harcèlement, du sexisme, tout ça.
Quand même, là où moi ça me fait rire, c'est que Nike a lancé un concept, paraît-il, un truc spécial femme, ça s'appelle Nike Unlaced. C'est un truc fait exprès pour les femmes, un truc des produits, veuillez m'excuser pour ce truc un peu rapide, des produits qui sont faits pour nous les femmes, parce qu'on le voit bien, comme dit l'autre slogan.
C'est pas Nike du coup.
Non, eh ben non, c'est pas Nike, mais enfin tu sais, entre multinationales, on trouve des petits accords. L'idée c'est que peut-être que pour Nike maintenant, trouver de nouvelles têtes féminines pour accepter de porter ce nouveau produit, ça va peut-être pas être si simple, parce qu'en 2-3 mois, il y a quand même un petit peu du bruit qui a été fait dans les médias. Voilà, je rajouterais que dans le terme aussi de la bêtise humaine sur lequel on irait bien se servir sa tête comme punching ball, monsieur Roman Polanski a donc déclaré dans une interview très récente, je me souviens plus à quel magazine il a fait cette interview, il a donc expliqué que le mouvement MeToo était une hystérie collective et il a fait des comparaisons avec des atrocités qui se sont passées dans le monde qui sont absolument sensationnelles. Je propose donc que nous boycottons une bonne fois pour toutes, si c'était pas déjà fait dans votre cerveau, il va peut-être falloir le faire, que nous boycottons monsieur Polanski et ses films.
Voilà, son excuse, voilà, c'était il y a longtemps, tout ça.
Mais aujourd'hui il a quand même 4 femmes sexiste qui ont porté plainte contre lui. Alors certes, c'était il y a longtemps, donc il sera jamais condamné, non, il n'aura rien.
Il aurait pu s'améliorer, progresser, en fait, avec ses propos, on se rend compte que c'est toujours un gros macho, il est ultra sexiste,
c'est un harceleur,
voilà, exactement.
Et qu'en plus de ça, il continue à s'enfoncer loin dans la boue.
Nous allons faire un bref agenda, donc on a dépassé un petit peu, mais parce que l'émission suivante a disparu, puisqu'ils n'étaient pas là la semaine dernière, ils ne sont pas là cette semaine.
Alors la semaine dernière, ça devait être Papillon, et cette semaine, ça devait être La Petite Cuillère. Donc la semaine prochaine, vous devriez retrouver certainement la Papillon, voilà, si vous arrivez à suivre comme nous.
Ou pas. Donc, 3 choses samedi. D'abord, il y a la marche pour la marche mondiale pour le cannabis 2018.
Du cannabis, attention. Et le vocabulaire est important.
Donc, pour demander d'arrêter les politiques prohibitionnistes. Le départ est à 15h, place Carnot. Samedi, on sera le 12 mai, donc pour demander la légalisation du cannabis. Il y a un appel à 15h, le samedi 12 mai, dans le centre-ville aussi, mais c'est place Bellecour cette fois, par le collectif 69 Palestine, pour faire une manifestation de soutien aux Palestiniens, et notamment à ceux qui font les fameuses marches du retour à Gaza et qui se font tirer dessus par l'armée israélienne. Et toujours samedi, alors c'est un peu plus tard, c'est de l'autre côté du pont, à partir de 18h jusqu'à la fermeture, il y a une soirée organisée à l'initiative du comité Tchétchénie de Lyon. Donc il y a participation entre autres d'Amnesty International et de la Ligue des Droits de l'Homme. Si vous voulez revoir un peu, réapprendre de ce qui se passe en Tchétchénie sur les politiques répressives, l'homophobie, tout ça, c'est un pays triste et tristement célèbre pour ses répressions diverses et variées. Voilà pour ce soir. On se retrouve donc nous la semaine prochaine, 19h jeudi, et demain normalement pour le prochain Canu Info, 19h.
Avec l'équipe du vendredi donc.
Exactement.
Bonne soirée à vous. Plein de fin de semaine et à très très bientôt. Ciao, ciao.
Bye bye.